Philippe Lesueur, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes gérant chez Cholet-Dupont. On va
Oui.
parler avec vous de marché financier. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les marchés financiers? Parce que finalement, on a l'impression que les investisseurs ont toujours quasiment leurs lunettes roses. Tout va bien. On voit les indices, on avait vu les indices aux États-Unis faire des records. Ça va vraiment si bien que ça?
Sur les marchés financiers, ils sentent que ça aille bien, oui. On a été inondé de liquidités depuis des années pour des mesures dont on a déjà débattu, donc il y a de l'argent. Cet argent, il a besoin de se redéployer en permanence, il est géré par des gens qui sont assez actifs, assez mobiles, et donc qui cherchent des occasions. On a eu toujours des raisons de s'inquiéter, et puis à certains moments, les raisons de s'inquiéter, en tout cas à court terme, elles disparaissent. Et c'est vrai que depuis un an, on peut dire qu'il y a une risée conjoncturelle positive partout. Dans les pays émergents, en Chine en premier lieu, dans les pays développés, aux États-Unis d'abord, mais également en Europe, y compris en zone euro. Et donc cette risée conjoncturelle, elle arrive pour des raisons conjoncturelles, mais en particulier parce que le prix du pétrole a baissé, ce qui est un moteur formidable, que les mesures qui avaient été prises de soutien ont marché, ce qui est aussi un moteur. Et puis vient se caler là-dessus des évolutions politiques majeures que tout le monde considère initialement comme négatives, le Brexit, l'élection de Trump, les incertitudes sur les élections européennes. Et finalement, dans un premier temps, on se dit, ben oui, mais le Brexit, les conséquences vont pas être aussi radicales et aussi rapides qu'on le croit. Trump, on ne sait pas si ce sera bien ou pas, mais finalement, des mesures de relance qui peuvent peut-être soutenir les résultats des entreprises, etc., ça va être bon. Et donc, risée conjoncturelle positive. Et ambiance politique où finalement on voit le côté rose de ce qui pourrait arriver, on ne sait pas ce qui va arriver en réalité, mais ce qui pourrait arriver, et donc, et beaucoup d'argent disponible, bah, résultat, on cherche des occasions.
Alors en même temps, il y a eu un changement quand même sur l'obligataire. On a commencé à le voir. On a
Alors
vu
justement, il y
des.
a un changement radical, mais
Oui.
c'est le même régime. Accélération conjoncturelle, certains disent qu'en réalité c'est une reprise structurelle, forte. Et donc, on va se redéployer vers ce qui, a priori, est supposé bénéficier de ça, c'est-à-dire les matières premières, les sociétés qui sont liées qui sont sensibles à une accélération conjoncturelle, type les investissements, les biens de consommation cyclique, etc. Et puis, simultanément, accélération de l'économie, peut-être risque de dérapage sur les déficits parce que les mesures politiques qui pourraient être prises sont amené à créer peut-être plus de déficit. Donc on se dit, bah, plus de croissance, peut-être un peu plus d'inflation, peut-être un peu plus de déficit, c'est mauvais pour les taux. Et donc dans le même mouvement, indépendamment de savoir ce qui va arriver effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On vend ce qui est sensible négativement, donc les taux, et donc les taux vont monter. On vend peut-être des sociétés qui sont très bien, qui n'ont pas de problème, mais dont les perspectives n'ont pas été améliorées, et on achète le reste. Donc c'est le même mouvement de marché, lié à un environnement conjoncturel un peu meilleur et à un environnement politique prometteur, peut-être.
Alors, du côté effectivement, du sujet de l'inflation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant plusieurs années et que là, on commence à avoir un certain nombre d'articles, d'analyses sur le fait, on parle de reflation de l'économie. Est-ce qu'on en sait un peu plus ou est-ce qu'on est vraiment peut-être au début? Parce que finalement, si vous parliez du pétrole, pour l'instant, il reste à des niveaux assez convenables, en tout cas pour les investisseurs.
Bah, c'est-à-dire en fait, on est toujours dans le même schéma. On a craint la déflation. Et donc, on s'est dit, oh là là, les productions, les surcapacités de production qu'on a créées partout, ça c'est incontestable, le ralentissement économique, tout ça va encore peser sur l'inflation, plus sur le risque de déflation, plus la baisse du prix de l'énergie qui, au moins conjoncturellement, a beaucoup pesé sur les indices d'inflation. Et donc, on s'est dit, bah oui, on part en déflation. Et puis, depuis un an, comme je le disais, cette risée conjoncturelle a fait que le risque a un peu disparu. Et puis, ces mesures politiques qui semblent venir peut-être vont relancer l'inflation. Et par ailleurs, quand même des améliorations lentes, structurelles, mais qui n'ont rien à voir avec une grosse poussée que certains pourraient espérer, font que le marché de l'emploi aux États-Unis, en Angleterre, etc., paraît meilleur. Donc peut-être que le rapport de force entre les gens qui touchent des salaires et qui, depuis quelques années, sont étranglés, et les gens qui touchent des bénéfices et qui en profitent, parce que les marges des entreprises sont plus hauts qu'historiques, et à l'inverse, le pouvoir de négociation salariale est à peu près plus bas. Et donc on s'est dit, bah, ça peut s'inverser. Donc peut-être créer un peu de redistribution vers la population au sens large, donc un peu de pouvoir d'achat et un peu d'inflation, etc. Pour l'instant, on semble ne plus craindre la déflation. On semble se rapprocher des fameux 2% qui seraient une espèce de niveau idéal d'inflation. Dire qu'on va aller beaucoup plus loin, c'est un peu rapide.
Quand on regarde la cote et les histoires d'entreprises, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'il y en a qui sont surévaluées ou ce n'est pas le cas justement compte tenu de ce que vous avez rappelé sur l'environnement? On en est un peu où sur ces évaluations de
Alors
marché?
là, je peux vous répondre, mais ça n'engage que moi. Je suis extrêmement modeste par rapport à cette notion de capacité à déterminer le juste prix, parce que le juste prix, c'est quelque chose qui change tous les jours, et qui a la preuve, c'est que du jour au lendemain, on voit des valeurs qui prennent 10, 15, 20%, ou qui les perdent d'ailleurs. Et puis, on voit des EPA qui sont faites avec des primes qui sont sans commune mesure avec ce que le marché dit. Et puis, on voit des valeurs qui, il y a un an, ne valaient rien, type les sociétés de matières premières, dont tout le monde pensait qu'elles allaient, pour certaines, devoir se restructurer profondément. Elles se restructurent, mais peut-être finalement pas aussi radicalement. Les banques, on n'en parlera pas, il y a un an, elles étaient au tapis. Tout d'un coup, ça repart. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment meilleures ou mieux ou portantes ou avec de meilleures perspectives qu'il y a un an? J'en suis pas très sûr. Et à l'inverse, des sociétés qui paraissaient formidables il y a un an, qui aujourd'hui sont complètement délaissées. Donc, la notion de prix, personnellement, je suis très modeste. Alors, à partir de là, oui, il y a certainement des exagérations, bien sûr, mais dans les deux sens. Et donc, je crois que cette logique d'investir, surtout dans des marchés qui sont dominés par quand même des notions de court terme, sur des notions de valorisation, on peut se casser la figure facilement.
Alors là, on sait, compte tenu de un peu la répartition de l'épargne en France, qu'il y a beaucoup d'épargne qui est investie dans l'assurance vie et que, compte tenu des rendements, il y a des gens qui se posent des questions. Investir en actions aujourd'hui, avoir des actions dans son portefeuille, il y a matière à le faire maintenant?
Alors là, il y a deux questions. Il y a l'assurance vie et puis il y a investir en action. L'assurance vie, il faut bien voir que c'est d'abord une enveloppe fiscale. Et donc la motivation de beaucoup d'épargnants pour aller vers l'assurance vie, c'est une motivation qui est d'abord fiscale. Ensuite, le support sur lequel on va investir cette épargne va être choisi en fonction de différents paramètres. Et le support historique formidable, c'était justement les contrats en euros, qui était basé sur la structure de la société d'assurance elle-même, avec une vision très longue et basée sur une logique de rendement obligataire d'une certaine manière, ou en tout cas sur des taux d'intérêt, quelle que soit leur échéance. Là aujourd'hui, évidemment, les taux d'intérêt étant très très bas, voire étant proche de zéro, tout d'un coup, ça excite moins les foules. Et puis par ailleurs, on voit les marchés actions qui montent, et donc on se dit, tiens, et donc pour des raisons à la fois de risque vis-à-vis des sociétés d'assurance et d'espérance de profit, on se redirige vers les actions. Donc c'est la deuxième question que vous posiez, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur les actions aujourd'hui? Nous, vous savez que dans toute la gestion qu'on fait, on essaie d'investir dans une logique qui reste, à tort ou à raison, même si c'est de moins en moins dominant sur les marchés aujourd'hui, en tout cas à court terme, d'investir dans une logique économique et industrielle. C'est-à-dire, nous, on pense que, indépendamment de l'opportunité liée à des effets de valorisation, à des effets de conjoncture, etc., il y a structurellement dans l'économie des secteurs d'activité, des entreprises qui sont dans une dynamique positive durable et d'autres qui sont dans des dynamiques difficiles durablement, même s'il peut y avoir des rebonds brutaux qui sont des opportunités pour certains. Et donc, sous l'angle d'investir dans une dynamique durable positive, nous, on pense que ce n'est pas le timing qui compte, ce n'est pas aujourd'hui, c'est n'importe quand.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Philippe Lesueur.
Je vous en prie.